Paulhache de Jérôme Vitenet, chapitre 13. René Martinez était chef d'atelier chez Automobile Composant depuis 5 ans maintenant. Ses cheveux noirs, sa peau bronzée, sa petite taille et son nom poussaient ses interlocuteurs à lui demander s'il était d'origine espagnole. Il n'en savait rien. Son arbre généalogique ne l'intéressait guère, et ses deux parents étant français, il se considérait avant tout comme un français, peu importe l'origine du sang qui coulait dans ses veines. À 55 ans passés, René paraissait usé comme son bleu de travail. Torturé par les machines pendant 40 ans, des taches sur les poumons qui tourneraient bientôt en cancer, à demi sourd, il pourrait bientôt profiter de la retraite, quelques années peut-être, avant de mourir dans l'indifférence des patrons qui ont monnayé sa sueur et détruit sa vie personnelle. Il avait commencé à travailler à 16 ans quand des recruteurs du domaine de la sidérurgie sont venus le chercher à la sortie de l'école. Une usine, à l'autre bout de la France, un foyer pour les jeunes travailleurs, on s'occuperait bien de lui car on avait besoin de ses bras pour visser, charger, souder, porter, déplacer, monter, assembler, presser. Loin de sa famille, il a appris à vivre seul, à être responsable de sa vie, de son budget. Quand il en a eu assez de cette première usine qui ne payait pas beaucoup et où il faisait trop chaud l'été, il a démissionné pour s'engager dans l'automobile qui était en plein essor. Citroën payait mieux et faisait rêver. Il y avait de plus en plus de voitures dans les rues, peut-être un jour il pourrait s'en acheter une, mais pour cela, il faudrait qu'il économise pendant des années. 20 années plus tard, le constructeur l'avait mis à la porte, ou plutôt l'avait reclassé chez un sous-traitant, lors d'un plan social. Le sous-traitant avait fait faillite, avait été racheté, avait changé de nom, de propriétaire, de patron, et était finalement devenu Automobile Composant. L'échelle sociale de René Martinez ne comportait que 2 barreaux, et il était sur le plus haut, chef d'atelier. Son équipe ne comportait que quelques hommes, tous plus jeunes que lui, qui deviendraient à leur tour chef d'atelier quand ils s'en iraient. Ils s'apercevraient alors à leur tour qu'être chef d'atelier, ça ne change rien. On fait la même chose, on respire le même air vicié et on entend le même bruit assourdissant des presses et des machines automatiques. On touche une prime de chef d'atelier, 100 euros, en contrepartie de quoi on est responsable de tout ce qui dysfonctionne dans la maison. Les pieds trempés d'avoir traversé 2 fois la cour sous des trombes d'eau, René discutait avec ses fournisseurs de la qualité des dernières livraisons de pièces détachées. Il s'agissait de jauges électroniques pour réservoirs à carburant. L'atelier que René supervisait produisait des dizaines de milliers de réservoirs qui équipaient différentes marques de véhicules légers et même quelques poids lourds. Il avait l'impression, depuis quelques mois, que les jauges tombaient en panne plus souvent et qu'elles dysfonctionnaient rapidement. Le représentant du fournisseur le rassura. C'était tout le contraire. Son entreprise était engagée dans une démarche d'assurance qualité qui certifiait que les pièces qui sortaient de l'usine étaient conformes aux exigences du client. C'était indubitable et c'était d'ailleurs écrit noir sur blanc sur les factures estampillées par la FNOR. René examina les factures d'un air absent. Il savait qu'il n'avait pas les armes pour faire objection à cela. Il répéta son constat. Ça tombait en panne tout le temps, mais il avait déjà baissé les bras. Ce serait à lui de gérer cette baisse de qualité en trouvant des astuces, en modifiant l'organisation de son atelier. Depuis 40 ans, il n'avait fait que s'adapter aux nouveautés. La technologie, les robots, les machines qu'on lui présentait comme des bras électroniques censés soulager ses efforts n'avaient fait que compliquer son travail. Réparer les robots défectueux était devenu sa mission principale avant de devenir chef d'atelier. Et cela lui demandait une force physique et des compétences intellectuelles supérieures. Non, les robots n'avaient pas soulagé sa peine, et non, les pièces n'étaient pas de meilleure qualité, même si elles avaient été tamponnées ou certifiées par le pape en personne. On lui mentait, depuis toujours. On lui présentait les choses de manière à ce que cela soit des vérités incontestables, mais il sentait bien, au fond de lui, que ce n'était pas le cas. Simplement, il n'avait pas la maîtrise suffisante de la langue française, pas les connaissances nécessaires en rhétorique, pas l'envie non plus de se battre pour contester ce que le monde entier semblait vouloir lui faire admettre. Alors il se taisait. En fronçant les sourcils, en secouant imperceptiblement la tête en signe de désapprobation soumise, il imaginait les nouvelles procédures à mettre en œuvre pour faire avec. Lorsque les fournisseurs furent partis, le directeur de la fabrication souhaita s'entretenir avec lui. Il sortait de la réunion extraordinaire du comité de développement et avait besoin d'en parler à quelqu'un. En général, il choisissait René parmi tous ses chefs d'équipe pour son calme et son oreille attentive, bien qu'aux capacités diminuées. Gravard lui expliqua les changements à venir. La pile à combustible, la voiture entière à assembler, le cahier des charges à déposer avant la fin de l'année, les subventions publiques. René accueillit la nouvelle en silence, tout en mesurant les impacts sur l'organisation générale de son atelier. Il n'avait pas à commenter ce choix qui lui échappait totalement, mais il ne put s'empêcher de demander à Gravard « On est sûr de pouvoir y arriver ?» Ce à quoi le directeur de la fabrication répondit sans conviction « Il faudra bien. » Les deux hommes se regardèrent longuement, chacun cherchant dans les yeux de l'autre des réponses aux nombreuses interrogations qu'il n'osait pas formuler à haute voix. Mal à l'aise, Gravard voulut mettre fin à l'entretien. « Autre chose, René ?»« Oui, répondit-il, profitant de ce rendez-vous impromptu avec son supérieur. « J'aimerais vous soumettre un problème que j'ai en ce moment. »« Je vous écoute. » »« Depuis que la salle de réunion de notre bâtiment a été reconvertie en local de stockage, je n'ai plus d'endroit pour recevoir les fournisseurs. » Eh bien, vous devez les faire venir au bâtiment administratif. Mais la salle André Citroën n'est jamais disponible. Selon les dernières statistiques, elle n'est même pas utilisée la moitié du temps. Chaque fois que j'en ai besoin, elle est déjà réservée ou déjà occupée. Vous utilisez le nouveau planning de réservation, celui qui est dans le hall du bâtiment administratif ?
Oui.
Vous constatez comme moi qu'il n'est qu'à moitié rempli.
Oui, mais il est rempli juste quand j'en ai besoin.
Ah, mais ça, que voulez-vous que j'y fasse ? C'est tout l'intérêt du planning que de choisir les horaires qui conviennent le mieux, lorsque les ressources sont disponibles.
Les ressources ?
Eh bien, la salle de réunion, dans le cas présent.
Et mes fournisseurs ?
Quoi, vos fournisseurs ?
Ils doivent être disponibles, eux aussi.
Eh bien, oui, évidemment.
Et s'ils ne sont pas disponibles en même temps que la salle ?
Eh bien, changez de fournisseur.
Gravard se leva et invita René à faire de même. Cette problématique de salle de réunion ne le passionnait pas, et il n'avait de toute manière aucune solution à proposer. Le chef d'atelier, de son côté, baissa une nouvelle fois les bras et comprit qu'il n'avait pas réussi à exposer correctement le problème et qu'il allait devoir, comme pour les jauges défectueuses, trouver lui-même la solution.